La loi, c'est-à-dire la loi mosaïque, c'est-à-dire ce qui était au centre du judaïsme, cette loi avec les 10 commandements, la loi est-elle donc contre les promesses de Dieu? Je ne vais pas prendre le temps de vous donner tout le contexte de ce qui précède, qui explique cette question, parce que nous allons réfléchir sur le reste. Certes, non. S'il avait été donné une loi qui puisse procurer la vie spirituelle, la justice, c'est-à-dire le statut de juste avec Dieu, dans ce sens, la justice viendrait réellement de la loi. Mais l'Écriture a tout fermé sous le péché, afin que la promesse soit donnée par la foi en Jésus-Christ à ceux qui croient. Avant que la foi vienne, c'est-à-dire avant la venue de Christ et l'apparition claire et finale du salut par la foi et non par nos œuvres, avant que la foi vienne, nous étions enfermés sur la surveillance de la loi, en vue de la foi qui devait être révélée. Ainsi, la loi a été un précepteur pour nous conduire à Christ afin que nous soyons justifiés par la foi. La foi étant venue, le moyen de salut par la foi étant venu, nous ne sommes plus sous ce précepteur, car vous êtes tous fils de Dieu par la foi en Christ Jésus. Vous tous qui avez été baptisés en Christ, vous avez revêtu Christ. Juste une petite remarque avant de commencer. Il dit, vous êtes tous fils de Dieu. Excusez-moi les dames, mais Paul est très gentil avec vous, parce que dans l'Antiquité, c'est que les fils et le fils aîné qui étaient... Les fils étaient héritiers, les filles ne l'étaient pas, et le fils aîné avait un double héritage. Donc quand il dit « Vous êtes tous fils de Dieu », il dit « Vous, que vous soyez filles ou garçons, vous êtes tous devenus héritiers. Vous avez tous le même statut dans le salut devant Dieu. » Donc ne vous fâchez pas s'il dit que vous êtes fils, c'est une manière de vous élever au plus haut. Bien. Nous allons essayer de répondre à quelques questions en deux parties. Première partie, observer la prison remplie de gens. Deuxième partie, observer la libération de cette prison. Premier point, observer la prison remplie de gens. Vous avez vu que j'ai lu au sujet d'une prison. Nous allons relire les versets 22 et 23. 22. Mais l'Écriture a tout enfermé. Vous voyez? On est enfermé sous le péché. Et verset 23, avant que la foi vienne, nous étions enfermés sur la surveillance de la loi. Il y a une prison, nous sommes enfermés, il y a un geôlier. Donc la première question est, quelle sorte de prison est-elle? Le texte nous dit que nous étions enfermés sous le péché. Ça veut dire que l'homme, dans son état naturel, avant de découvrir l'évangile et Christ, l'homme est, oui, il est prisonnier, il est asservi à ses propres désirs égoïstes et immoraux. Il y a l'égoïsme, il y a l'orgueil, il y a toutes sortes de cupidités. Je ne vais pas vous faire une longue liste, mais la Bible dit que donc nous sommes enfermés dans cette prison. Chers amis, le péché, ce que la Bible appelle le péché, n'est pas une liberté comme le monde pense. Il pense que le fait de pouvoir faire n'importe quoi, c'est ça la liberté. Mais quand on examine un peu plus, quand on creuse, on découvre que ce que le monde appelle une liberté est enfin un esclavage terrible. Je vais vous donner juste un petit exemple pour que vous compreniez ce que je veux dire. Et cet exemple est au sujet de Madonna. Si j'arrive à trouver le passage. J'aurais dû le marquer. excusez-moi. Normalement, je fais ça. Et voilà, ok. Donc, Madonna était interviewée et donc elle dit ceci. Ce qui me pousse dans la vie vient d'une crainte d'être médiocre. C'est toujours en train de me pousser, me pousser. Je dépasse un épisode de cette crainte et je me découvre comme un être humain spécial, extraordinaire, et ensuite je me ressens médiocre et sans intérêt jusqu'à ce que je fasse quelque chose d'autre pour devenir extraordinaire. Parce que même si je suis devenu quelqu'un, elle est quelqu'un, n'est-ce pas? Tout le monde connaît Madonna, j'ai toujours besoin de prouver que je suis quelqu'un. Ma lutte n'a jamais cessé et je pense qu'elle ne cessera jamais. Voilà un asservissement, voilà un esclavage au besoin d'être grand, d'être. Elle dit médiocre, mais c'est pas ça exactement. Ça ne lui suffit pas d'être ordinaire. Elle doit être extraordinaire. Autrefois, on appelait ça l'orgueil. Mais c'est une forme de non-acceptation d'être quelqu'un d'ordinaire. Quelle triste affaire pour nous. Nous étions faits pour que nous vivions avec la joie du Dieu qui est grand. C'est chez lui la grandeur. Et puisque nous sommes faits par lui et à lui et nous jouissons de tout son amour et sa grandeur, sa puissance, sa sagesse, sa grandeur nous suffit. Mais lorsqu'on ne croit plus à Dieu, on a besoin, le cœur cherche la grandeur quelque part et il veut être son propre Dieu. L'extraordinaire, quelque chose d'immense, de bien. Et on est obligé. Mais puisqu'on le cherche en soi-même, on ne le trouve jamais. Mais vous voyez qu'elle a ses règles, les choses qu'elle doit faire pour atteindre. Et si elle y arrive à l'exigence, elle accomplit son exigence, ça n'enlève pas ce désir, ça ne fait que le renforcer. Donc voilà la prison dans laquelle nous sommes tous avant la foi. Qui a enfermé ces gens dans cette prison? Une prison, emprisonnée par leur culpabilité, leur désir pour l'argent, leur désir pour la popularité, leur désir sexuel. Qui a emprisonné? Alors, la Bible dit dans le texte, au verset 22, l'Écriture a tout fait enfermer sous le péché afin que la promesse soit donnée, etc. Et dans le verset suivant, avant que la foi ne vienne, nous étions enfermés sous la surveillance de la loi. Donc l'Écriture, loi, ça veut dire que c'est la loi de Dieu qui a enfermé et qui a jeté la clé, qui vous a enfermé sous cet asservissement au péché. Ça, c'est un fait très, très étonnant. Le geôlier, pourtant, est légitime. Parce que si c'est la loi de Dieu, la loi a le droit de vous enfermer dans la prison. Ça ne veut pas dire que vous êtes devenu pécheur par la loi de Dieu. Vous étiez pécheur. D'accord? Mais qu'est-ce que la loi a fait? La loi a permis de révéler à quel point votre péché est un asservissement. Donc, la loi de Dieu qui se résume dans ces deux points, tu aimerais le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur et ton prochain comme toi-même. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Tu ne prendras pas le nom du Seigneur en vain. Tu ne tueras pas. Ce qui veut dire que tu n'auras pas une colère même, Jésus dit, une colère injuste envers ton frère. Tu ne commettras pas l'adultère, ce qui veut dire physiquement ou dans le cœur, en regardant de manière adultère une femme qui n'est pas la tienne. Tu ne porteras pas faux témoignage. Tu ne convoiteras pas ce qui est à ton prochain. C'est cette loi, en essayant d'obéir à cette loi, nous allons voir, on se retrouve complètement incapable, enfermé, asservi à nos péchés. Et c'est ce que je veux vous montrer maintenant. Troisième question. Comment est-ce que la loi de Dieu enferme les gens sous le péché alors qu'elle leur commande de ne pas pécher? La loi vous commande de ne pas pécher. Comment est-ce qu'elle vous enferme dans le péché? Et pour cela, je vais d'abord vous lire un texte, ne tournez pas, je vais rapidement vous lire quelques versets de l'expérience de l'apôtre Paul avant de se convertir. Voilà ce qu'il dit. Il dit, que dirons-nous? La loi est-elle péché? C'est-à-dire, est-ce que la faute est à la loi de Dieu? Que vous soyez tellement asservis. Certainement. Mais je n'ai connu le péché que par la loi. Je ne savais pas que j'étais pécheur, sauf que quand j'ai connu les commandements et j'ai essayé de les obéir. Car je n'aurais pas connu la convoitise, 10e commandement, ne convoitez pas ce qui est à ton voisin. Je n'aurais pas connu la convoitise si la loi n'avait dit « tu ne convoiteras pas ». Et le péché, profitant de l'occasion, produit en moi par le commandement, écoutez bien, produit en moi par le commandement, toutes sortes de convoitises. Donc nous voyons que la loi l'enferme dans une expérience d'asservissement à la convoitise. Il était déjà un homme qui convoitait, mais il ne le savait pas. La loi fait paraître cela. Je vous donne un autre exemple. Voilà quelqu'un qui est addict au sucre. Est-ce que vous saviez que ça existe, des vraies addictions au sucre? Oui. Et maintenant, on nous dit que certaines personnes ont un problème avec des régimes qui leur sont impossibles de suivre parce que ce ne sont pas des personnes normales, mais des personnes avec une vraie addiction physiologique au sucre. Maintenant, supposons que nous avons une telle personne et qui ne le sait pas. Cette personne ne sait pas qu'il y a des addictions au sucre, ni qu'elle en a une. On lui donne un régime à suivre, et dans ce régime, elle doit garder certaines règles, et à son réveil chaque matin, lire et répéter ces règles, comme une loi. C'est une loi, c'est un code. Et donc, elle se lève, et elle dit, pas d'éclair chocolat, pas de tarte tropicienne, pas de profiterol, pas de bonbons carambars, pas de glace ou parfum nougatine croustillante. Ça, c'est les lois.
Il en reste beaucoup.
Ok, j'ai pas fini. Ensuite, je raccourcis la liste pour arriver au comportement. Je ne dois pas manger entre les repas aujourd'hui. Je ne dois pas penser au sujet de la nourriture. Je ne dois pas prendre mon café dans la pâtisserie. Et pas de rab pour moi au repas. Alors, vous savez que cette procédure ne fait que enfermer ces personnes dans une prison de violation du régime. N'est-ce pas? Et en faisant cela, qu'est-ce que cette loi fait? Cette loi lui révèle tout simplement qu'elle est une addicte au sucre. Elle ne le fait pas addicte, mais elle révèle qu'elle est enfin addicte. Et voilà ce que Paul dit, que l'Écriture nous a enfermés sur le péché en nous commandant de faire le bien. Je dis à quelqu'un qui ne croit pas en Jésus-Christ, je crois que peut-être la meilleure manière, ce n'est pas d'essayer de les convaincre dans un premier temps de croire, ça reste au niveau de l'intellect. Je pense qu'une meilleure manière de faire, c'est de proposer une épreuve. Pendant 6 mois, essayez de faire ceci. Jésus a dit, tout ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, faites-le même, de même pour eux. C'est car c'est la loi et les prophètes. Donc, s'il vous plaît, pendant 6 mois, tous les jours, toutes les heures de la journée, ce que vous voulez que les autres fassent pour vous, vous faites-le pour eux. Et qu'est-ce qui va se passer? Cette personne, pour la première fois dans sa vie, va se retrouver avec une réalité écrasante. Je suis complètement égoïste. Je suis incapable de faire cela. Et plus j'essaye, moins je réussis. Peut-être il y a quelque chose dans cet évangile que vous professez. Alors, la dernière question que je veux poser dans cette première partie, qui est au sujet d'observer la prison remplie de gens, dernière question, c'est qui est dans la prison? Vous avez vu dans le verset 22, l'Écriture a tout enfermé sous le péché, afin que la promesse soit donnée par la foi en Jésus-Christ à ceux qui croient. Ça veut dire qu'il n'y a personne qui naît dans un bas monde depuis la chute d'Adam et Ève, qui vient dans ce monde sans être un pécheur. Je parlais récemment avec un musulman turc dans un café à Aix-en-Provence, et j'ai mentionné cet enseignant biblique qui dit que nous naissons dans le monde déjà enclin à l'égoïsme et au péché. Et il m'a dit « Non, c'est pas du tout vrai. » Je connais l'islam et je savais que l'islam enseignait le contraire. L'islam enseignait que l'homme naît parfait. Il naît un ange. Et donc s'il sait ce qu'il faut faire, il peut revenir à cet état angélique. Donc je lui ai dit, est-ce que tu as jamais vu un bébé d'un an et demi capable maintenant de jouer avec un autre bébé à côté et maintenant prend le jouet de l'autre ou ne veut pas que l'autre partage son jouet avec l'autre? Qui lui a montré cela? Où est-ce qu'il a appris ça? Il n'avait pas besoin d'apprendre ça. Déjà, vous avez travaillé pour lui apprendre certaines choses, mais vous n'avez rien fait pour lui apprendre ça parce que c'est déjà présent. D'accord? Et ça explique l'histoire humaine. Ok, nous avons fini avec la mauvaise nouvelle et voilà la bonne nouvelle. La deuxième partie, c'est que observez dans ce texte la glorieuse libération de prison que Dieu vous offre en Jésus-Christ. Alors, donc, je pose encore quelques questions simplement et nous allons regarder quelques versets. J'essaie d'aller rapidement maintenant. Pourquoi est-ce que Dieu nous a enfermés sous le péché par la loi? Ça semble être méchant. Mais au contraire, lisez le verset 22 encore. 22, au milieu du 22. Bon, je vais lire tout le verset. L'Écriture a tout enfermé sous le péché afin que la promesse soit donnée par la foi en Jésus-Christ à ceux qui croient. Avant que la foi vienne, nous étions enfermés sous la surveillance de la loi en vue de la foi qui devait être révélée. Ainsi, la loi a été un précepteur pour nous conduire à Christ, afin que nous soyons justifiés par la foi. Trois fois, Paul dit, Dieu vous a enfermé par la loi, sous l'asservissement au péché, oui, mais son but, c'était par là de vous rendre tellement conscient de votre besoin du Sauveur que vous alliez tout droit à lui dès qu'il vous est présenté. Vous voyez? Et je pense que dans mon travail pastoral, la chose la plus difficile, c'est de convaincre quelqu'un qui a besoin d'un Sauveur. Qu'il appartient à un Dieu créateur très bon, qui s'en est détourné et qu'il a passé toute sa vie à essayer de fuir ce Dieu et à essayer de vivre comme ce Dieu n'est pas là ou n'est pas important. Que toute sa vie, même s'il était assez moral avec les autres, horizontalement il est assez immoral, assez bon, mais vis-à-vis de Dieu, toute sa vie était un effort de dire tu n'es pas important, tu n'es pas important, tu n'es pas important, je ne pense pas à toi, je ne te cherche pas, je ne demande pas si tu es là et je ne te consulte pas pour savoir comment je dois vivre, je me consulte, vous voyez? Et même si je débouche sur une certaine moralité, c'est une moralité rebelle parce que je le fais à cause de moi et pas à cause de lui. Vous voyez? Et donc, la Bible dit tout simplement, tous ont péché, ils sont privés de la gloire de Dieu. C'est pour cela que nous avons, c'est ce déni de cela. Quand je parle de cela, les gens disent, non, pas possible, moi je suis bon, moi je suis bon, moi je suis bon. La chose la plus difficile dans le monde, il me semble, c'est de convaincre quelqu'un qui l'attend, moralement. Ma femme peut vous dire, par rapport à moi, sa tâche la plus difficile parfois, c'est de me convaincre que mon comportement était mauvais envers elle. J'ai toujours une excuse. Le déni. Et voilà pourquoi nous avons besoin de la loi pour nous mettre face à ce que nous sommes vraiment. Alors, ma question suivante, c'est qui est-ce que Jésus est venu libérer? Qui est-ce que Dieu... Si la loi avait ce but, que nous soyons enfin libérés, qui est libéré? Et nous lisons dans le verset 22, « L'Écriture a tout enfermé sous le péché afin que la promesse soit donnée par la foi en Jésus-Christ à qui ?» À ceux qui croient. Et bien sûr, cet évangile est prêché pour que tous se croient. Mais tous ne croient pas. Mais Dieu a un peuple. Il est en train de les attirer à lui-même. Et la Bible parle de cela. Alors, tout ce que je veux vous dire par là, c'est que Jésus est venu sauver, oui, ceux qui croient, mais j'aurais dû vous dire, il est venu sauver ceux qui étaient enfermés dans la prison. Tu ne peux pas libérer quelqu'un qui n'est pas en prison. Voilà. Donc, si Jésus vient, il vient pour les gens qui sont asservis, esclaves de leur mauvaise tendance. Et si vous n'êtes pas pécheur, je n'ai pas de message pour vous aujourd'hui. Parce que Jésus dit, je ne suis pas venu pour les justes, ils n'existent pas, mais pour les injustes. Ça, c'est la bonne nouvelle, n'est-ce pas? Que donc, nous sommes tous qualifiés. Maintenant, et là, c'est le point le plus important, et nous arrivons à la fin du message. Comment est-ce que Jésus nous libère de la prison, de cette prison de péché et de l'aliénation avec Dieu? Regardez maintenant le verset 21. Et je veux vous demander de regarder, maintenant je vais lire quelques versets, regardez la juxtaposition, le contraste constant entre loi et foi. Loi et foi. Ok? On lit. Verset 21. La loi est-elle donc contre les promesses? Et promesse, c'est une autre manière de parler de foi, parce qu'on a la foi dans les promesses. La loi est-elle donc contre les promesses de Dieu? Certes non. S'il avait été donné une loi qui puisse procurer la vie, la justice viendrait réellement par la loi. Mais l'Écriture a tout renfermé sous le péché afin que la promesse soit donnée par la foi en Jésus-Christ à ceux qui croient. Avant que la foi vienne, nous étions enfermés sous la surveillance de la loi. Vous voyez, avant la foi, la loi. Ok, en vue de la foi qui devait être révélée. Ainsi, la loi a été un précepteur pour nous conduire à Christ afin que nous soyons justifiés par la foi. Encore, la loi, précepteur, pour nous amener à être sauvés par la foi. Ok, maintenant, je veux considérer avec vous ces deux voies opposées. C'est quoi la loi? Si vous deviez vous réconcilier avec Dieu par la loi, par sa loi des 10 commandements, en étant bon, en obéissant à sa loi, vous prenez une voie. La voie de la loi, c'est la voie d'une demande, d'une exigence. La loi fait quoi? La loi exige. Faites ceci, ne faites pas cela. Et pour emprunter la voie de la loi, vous devez accomplir toutes les exigences. Ok? La loi signifie exigence, et pour vous, ça signifie faire. D'accord? Exigence, faire. Maintenant, la voie de la promesse ou de la loi est complètement différente. Dans la voie de la promesse n'exige rien. Quand je vous promets quelque chose, ce n'est pas une exigence, c'est une offre, c'est un don. La voie de la loi est exigence, donc faire, et la voie de la promesse est offre, donc croire, recevoir, sans faire. Et je veux vous donner deux illustrations. L'autre jour, Nikki est en train d'essayer d'acheter des livres pour l'étude biblique des dames sur Internet, et elle n'arrivait pas. Elle n'arrivait pas à manipuler le site, qui était un peu compliqué, et aussi sa tablette avait un problème à fonctionner avec le site. Et donc elle a tenté, elle a dit « j'arrive pas ». J'aurais pu lui donner la voie de la loi ou la voie de la promesse. si je lui donnais la possibilité de se délivrer de ce problème par la voie de la loi, je vais lui donner certaines exigences. Ok. Maintenant, sur le site, tu fais ça, 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 et ça, et ça. Et si elle arrive à tout faire, elle va s'en sortir. Mais je n'ai pas emprunté cette voie de la loi. Je lui ai offert la voie de la promesse. J'ai dit, ne t'en fais pas, chérie. J'achète les livres sur le site demain matin quand je me mets au travail. Parce que j'utilise souvent le site. Voilà. Maintenant, je lui fais une promesse. Et qu'est-ce qu'elle doit faire? Confiance. Merci. Merci. J'accepte. Quand vous amenez votre voiture au garagiste, c'est la voie de la promesse. Il vous dit, je répare. Tu ne vas pas venir l'après-midi pour essayer de m'aider. Il n'y a pas d'exigence pour toi. Ok. Si c'est gratuit. Mais vous voyez que la voie de la promesse est absolument merveilleuse. Que Dieu utilise la voie de la promesse avec nous. Mais comment? Si nous allons plus loin dans ce chapitre de Galates, nous lisons ceci. Lorsque les temps furent accomplis, quelques phrases plus tard, Dieu a envoyé son fils, né d'une femme, né sous la loi, afin de racheter ceux qui étaient sous la loi pour que nous recevions l'adoption. Qu'est-ce que ça veut dire? Jésus est envoyé par Dieu à nous qui sommes fatigués d'un fardeau lourd de nos péchés, de notre culpabilité, et il vous dit, ne vous en faites pas. Venez à moi, je m'en suis déjà occupé à la croix. J'ai tout réglé, j'ai tout payé. Vous n'avez pas à faire, il n'y a pas d'exigence. J'ai accompli l'exigence en mourant. Acceptez, venez, confiez-vous en moi. Acceptez que je sois votre répondant devant Dieu, votre expiation. Et c'est cela que nous allons célébrer tout à l'heure avec Evelyne, lorsque nous allons la baptiser, parce que le passage nous amène à une dernière question. Qu'est-ce qui arrive à la personne qui emprunte la voie de la promesse de l'Évangile? Et nous lisons dans le verset 2, à la fin, « Afin que la promesse soit donnée par la foi en Jésus-Christ à ceux qui croient. » Ce que la promesse a promis est vraiment donné lorsque vous croyez. Et qu'est-ce qui est donné? Dans le verset 24, nous lisons, « Ainsi la loi a été un précepteur pour nous conduire à Christ afin que nous soyons justifiés. » Alors, justifier, c'est quoi? C'est un mot légal, c'est un mot forensique qu'on utilisait dans les tribunaux, et c'est le contraire de condamner. Soit tu es condamné, soit tu es justifié. C'est un verdict. C'est pas quelque chose qui... Quand tu es justifié, ça ne veut pas dire que tu es rendu meilleur toi-même. Ça, c'est un autre mot. Ça veut dire justement que c'est quelque chose qui arrive en dehors de toi. La sentence justifiée, acquittée, pardonnée, mise en règle avec Dieu par ce qu'a fait un autre. Et donc, nous allons baptiser Evelyne parce que le passage dit que la promesse lui a été donnée. Elle a été justifiée non par ses accomplissements vis-à-vis de la loi, mais par la foi. Elle a vu ce que Christ a fait, elle a cru dans son accomplissement, et Dieu a dit, acquitté, pardonné. Elle, tu es en règle avec moi pour toujours. Et ça, c'est la formidable nouvelle du baptême que nous allons célébrer. Ensuite, dans le verset 26, vous êtes tous fils de Dieu par la foi en Jésus-Christ. Et ça veut dire que Evelyne n'est pas seulement en règle avec Christ, mais elle est à la plus haute place. Elle n'est pas serviteur, elle est un héritier. Elle est dans la famille. Elle a été accueillie dans les bras de Dieu comme son enfant pour toujours. Et le texte nous dit, vous tous qui avez été baptisés en Christ, vous avez revêtu Christ. Alors, j'explique et puis c'est la fin. Dans l'Église primitive, quand on baptisait, il y avait tout un rite, nous l'avons découvert dans des écrits du 1er siècle. Qu'est-ce qui se passait? Alors, le baptisé, donc, était habillé d'une certaine façon et enlever sa tenue, était baptisé nu. On va pas faire ça aujourd'hui. Certains disent que les hommes tournaient le dos au moment où la dame rentrait dans l'eau. Peut-être il y avait un voile. Hein? Mais de toute façon, la personne entrait dans l'eau et était donc nue. À la sortie du baptême, la personne est revêtue. Et ce revêtement donne lieu à ce que Paul dit ici. Vous tous qui avez été baptisés en Christ Jésus, vous avez revêtu Christ. Autrefois, Evelyne, tu étais dans ton vêtement devant Dieu, c'était tous les actes de ta vie. Tous les actes mauvais qui n'ont jamais vraiment atteint ce que Dieu voulait vraiment, tu t'es revêtu de ça comme ton statut. Et le Christ a pris ça. Il était revêtu de ça sur la croix. C'est pour ça qu'il est mort. C'est pour ça qu'il a souffert. Et maintenant, ça, tu ne l'as plus. Il a pris. Et quand tu t'enlèves des eaux de baptême, alors tu c'est un symbole du fait que tu es revêtu de Christ, le statut qui t'appartient. Lorsqu'on voit les habits de quelqu'un, lorsqu'on regarde quelqu'un, on voit ses habits, n'est-ce pas? Et lorsque Dieu te voit, elle voit le statut du Christ. Toute sa vie parfaite, tout ce qu'il a fait sur la croix, c'est la seule chose qu'il voit en toi. Et donc tu es héritier, tu es pardonné, tu as la statue du Fils de Dieu. Nous allons donc nous réjouir avec Evelyne en chantant un dernier chant au sujet de cette nouvelle vie que Dieu lui a donnée. Et si vous pouvez trouver le cantique numéro 235.